Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son ami, son enfance, son univers. Les hommes aux machettes étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur ? Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulie. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à la fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol, s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acérées. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre, les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore, ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ses questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre. Le médecin insiste, Stella se claque le mur. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda. 1994. Le Rwanda est arrivé dans ma vie par la télévision, que nous regardions religieusement à l'heure du dîner. La première fois que le présentateur en avait parlé, je m'étais tourné instinctivement vers ma mère, tout excité, presque content qu'il soit enfin question de son pays natal au journal télévisé. Mais elle n'avait pas réagi, complètement absorbée par les images qui défilaient à l'écran. Voyant ma fébrilité, mon père m'avait lancé un regard gêné et dissuasif. À la fin de l'émission, j'avais attendu de la part de ma mère une réaction qui n'était pas venue. Cette scène se répéta quasiment chaque soir. Des mois durant, un magma d'images de mort, de violence et d'exode s'est déversé dans nos assiettes. Avant la diffusion, le présentateur prenait le soin d'avertir que certains contenus étaient susceptibles de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous restions ensuite silencieux, nos regards fixant l'écran, nos fourchettes suspendues, figées comme des statues, devant le spectacle de cette barbarie lointaine. Puis le présentateur réapparaissait pour annoncer un autre reportage. Un ange passait, avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Mon père se versait un verre de vin. Ma mère poivrait énergiquement sa purée de pommes de terre. Je peinais à découper mon steak et à chasser les scènes d'horreur qui venaient de me caramboler. Chez nous, la sensibilité du téléspectateur était avalée comme une bouchée de silence. J'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Glycénie. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors, petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaogogatoi, Gaogokanimiya, Wala fumari wapuye, Wala goveni wagoka. Gaogogatoi, Gaogokanimiya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson, l'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer. Quand arrivera ce maudit mois d'avril, tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaogo gatoi, gaogo kaniniya, wana fumari wapuye, wana gowe ni wagoka. Gaogo gatoi,
un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zanou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaogo gatoi, gaogo kaniniya, wala fumeri wapuye, wala gore ni wagoka. Gaogo gatoi,
petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime. Ça, j'en suis sûr. 2005. Ce soir-là, nous bavardions de tout et de rien, comme d'habitude. Mais plus la discussion se prolongeait, et plus il devenait certain que nous allions parler du génocide. Tu avances sur ton mémoire ? Pas vraiment. Je n'ai pas eu la force d'assister à d'autres procès. Les récits sont insoutenables. Je comprends maintenant pourquoi on dit qu'un génocide est indicible. Tu sais, l'indicible, ce n'est pas la violence du génocide. C'est la force des survivants à poursuivre leur existence malgré tout. La nuit était douce. Elle s'enroulait autour de nous comme un boa de plumes. Parfois, Eusebi tapotait son crâne pour apaiser les démangeaisons dues aux tresses. Elle a sorti ses pieds de la bassine, les a asséchés délicatement et s'est mise à les masser avec du beurre de karité. En 1998, l'été où nous nous sommes rencontrés, j'ai participé à des réunions au sein d'un comité qui réfléchissait aux solutions pour juger les milliers de génocidaires arrêtés. À cette époque, les prisons étaient plus que saturées et notre système judiciaire totalement détruit. Si nous n'avions pas mis en place les gachacha, il aurait fallu plus de 200 ans pour juger l'ensemble des prisonniers. Bien sûr, c'est une justice imparfaite, mais elle a le mérite de libérer la parole et surtout de mettre fin à l'impunité qui existait depuis toujours. Cela permettra la réconciliation et le pardon. Tu y crois ? À la réconciliation et au pardon ? Non. Je suis une survivante. J'ai vu comment ces gens se sont comportés. Mais les procès sont nécessaires pour les générations d'après, pour Stella et toi. Grâce à ce que l'on fait aujourd'hui, vous arriverez à cohabiter avec leurs enfants. C'est mon espoir. Jour d'exhumation. Une foule nombreuse s'est réunie au sommet de la colline. Les juges gachacha, les prisonniers, les villageois, quelques ouvriers, Claude, Sartre et moi. Le chat a indiqué l'emplacement du charnier. À l'endroit où se trouvaient les latrines, une maison a été bâtie par la famille d'un tueur qui cherchait à dissimuler ses preuves encombrantes. Une tractopelle est arrivée en crachant sa fumée noire sur le chemin pentu. En moins d'une heure, la maison a été rasée. Aussitôt, les ouvriers se sont mis au travail, creusant la terre avec des pelles. En début d'après-midi, l'un d'eux a découvert un premier crâne. Une bâche en plastique a été étendue dans l'herbe pour y déposer les restes des victimes. 17 crânes, 34 fémurs, différents ossements, des vêtements et des objets entreposés au grand air devant la foule. Parmi les objets se trouvait le chapelet de Solange, la mère de Claude. Les ossements ont ensuite été nettoyés un par un avec des brosses à dents avant d'être placés dans des cercueils destinés à rejoindre le mémorial. Sartre m'a expliqué que, lors des prochaines commémorations d'avril, les victimes seraient inhumées au cours d'une cérémonie religieuse, enterrées en dignité, comme on dit au Rwanda. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais, ô mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, un million de nos tombes en trombes torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you. Je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you.
histoire nous égare, je rêve debout au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
Tuza hola, tuba shimila, tuba zirikana, tubi ibuka, mubi ebiza, twa giranye. Tuza hola, tuba hesha, agachiro, tubi ibuka, nubupura, ubaranga. Je rêve de vous, kwibuka, I'm dreaming of you, kwibuka, je rêve de vous, kwibuka, I'm dreaming of you, kwibuka,
je rêve de vous, vous mes lumières invaincues. Les ténèbres, je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves, je rêve de vous, vous mes lumières invaincues, mon souvenir, mes silences nus, je rêve de vous, dissipe les ténèbres, je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Ce soir-là, nous évitions de parler de ce que nous avions vu et vécu sur la colline. Nous buvions nos bières chaudes sans un mot, en écoutant Laurette de Kamaliza, qui passait à la radio. La voix douce et chevrotante de la chanteuse nous plongeait dans des songes inaccessibles. Je repensais à ces villageois qui avaient commis des crimes ou y avaient assisté, et qui étaient venus aujourd'hui observer l'ouverture de la fosse avec une curiosité morbide. Ce pays me troublait, m'effrayait, me répugnait. Partout, il y avait ces visages banals, ces gens normaux, ces hommes et ces femmes ordinaires, capables d'atrocités inimaginables et qui étaient parmi nous, autour de nous, avec nous, vivant comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. Et sous la terre que nous foulions tous les jours, dans les champs, dans les forêts, les lacs, les fleuves, les rivières, dans les églises, les écoles, les hôpitaux, les maisons et les latrines, les corps des victimes ne reposaient pas en paix. J'avais envie de m'enfuir, de quitter cette terre de mort et de désolation. Après tout, je n'appartenais pas à ce monde. Ma mère m'avait mise en garde, je ne l'avais pas écoutée. J'aurais voulu l'appeler, m'excuser d'en avoir fait qu'à ma tête et la remercier d'avoir essayé de me protéger de cette histoire dont elle connaissait le hideux visage. Cette idée me traversait, puis je pensais aussitôt à Claude, à Eusebie, à Stella. Et quelque chose se fissurait en moi qui laissait passer un soleil insensé, la possibilité, malgré tout, de la vie et de la beauté.
Nya usamata gamatera gahina namanyagwa hadutwa yuingenzi bakoga hadute ya gahina Memutoni wachu memicho miza sibirari mwe Memutoni wachu memicho miza sibirari mwe Yenumurize Yenimumurize babie
Je suis assis dans l'herbe, sous le jacaranda. C'était le crépuscule. l'heure où le soleil nous veut du bien. La poussière me faisait éternuer. Des bonnes sœurs de blanc vêtues traversaient la piste en riant. Une mouche s'est posée un court instant sur mon bras, puis est repartie à la conquête de l'espace. Je réfléchissais à l'idée soufflée par Stella. Écrire l'histoire de nos familles sur 5 générations. Rosalie, mamie, ma mère et Eusébie, Claude et enfin Stella. Le soleil venait de passer derrière le clocher. Il était temps de se mettre en route. Sur un bout de papier, Claude m'avait fait un dessin pour m'indiquer l'adresse de mamie. C'était une promenade agréable. Avec son université, Boutaré avait été autrefois le centre de la vie intellectuelle du pays. Aujourd'hui, c'était une ville somnolente au charme désuet. À l'angle de l'avenue Roi-Savé et de l'avenue Mont-Houillé, j'ai remarqué une jolie petite maison en briques blanches en partie couverte de lierre, sans clôture et aux fenêtres sans barreaux. Je me suis arrêté et j'ai imaginé quelques secondes avoir vécu là, dans une autre vie, heureux, entouré d'une famille aimante, sans le spectre de tous ceux qui avaient ravagé ce pays depuis les premiers massacres de 1959. Puis j'ai repris la route, longé des rues désertes et caillouteuses, sous le regard de grands arbres vénérables, de maisons carrées aux toits de tôle rouge et aux cheminées insolites sous ces latitudes. Durant le voyage à moto entre Kigali et Boutaré, accroché à Claude, j'avais pensé à celui qui nous reliait et dont ni lui ni moi ne connaissions rien. Je pourrais profiter de ces quelques jours pour en savoir plus sur mon grand-père Emmanuel. J'étais arrivé devant chez mamie, une grande maison sans charme aux murs en crépi gris. J'ai ramassé un caillou au sol et pour m'annoncer, j'ai toqué sur le portail en fer. Un chien a aboyé. Tu égrènes ton chapelet, mamie, t'énumères tes principes, le respect, la famille, le mariage. Le jacaranda en fleurs déploie son ombrage. C'est pas une chanson triste, c'est juste un temps d'arrêt. Une journée à Boutaré. Qui s'allume dans ta grande maison où tombe la nuit. passe à l'improviste quelques amis. Un thé citronnel, une mousse Amstel. On parle tout bas d'un tel et un tel. Demain je repars vers la France lointaine. Tu vas me manquer, mamie, comme je t'aime. Comme je t'ai aimé toutes ces années. C'est pas une chanson triste, c'est un temps d'arrêt. Depuis le procès de 2005, Claude n'avait pas remis les pieds dans la région. Y revenir 5 ans plus tard, lui demander une volonté et un courage qui me dépassaient. Nous poursuivions notre marche et la nouvelle de notre arrivée sur la colline semblait se répandre comme la peur. Tout à coup, Claude s'est arrêté. C'est là, dans les herbes hautes et la broussaille, émergeaient les vestiges d'un pan de mur et les fondations érodées de ce qui était autrefois sa maison familiale. Il resta immobile un moment, le regard baissé vers les ruines. Dans un champ en contrebas, des femmes cultivaient des haricots et des pommes de terre. Claude descendit vers elles. Il me rapporta ensuite leur discussion. Vous savez à qui appartient cette parcelle que vous cultivez ?
Elle appartient à la communauté. Nous ne faisons rien de mal.
Donc ce terrain n'appartient à personne en particulier.
Qui es-tu ? Tu ne t'es pas présenté, l'étranger.
Tu sais très bien qui je suis, vieille femme. Ta mémoire a-t-elle disparu comme la maison qui se trouvait là ?
Tu es partie il y a fort longtemps. Nous ne faisons rien de mal. Nous voulons simplement nourrir nos enfants. Toi, tu vis et travailles en ville. Tu es riche, alors que nous sommes dans la pauvreté.
Comment pouvez-vous être dans la pauvreté, vous qui avez vos familles ?
Dieu est un père pour tous ses enfants.
Je ne suis pas venu vous convaincre, simplement vous avertir. Dites à vos hommes que Claude, le fils de Solange, le petit-fils de Vestine, le neveu de Godelive et de Bertin l'instituteur, est venu récupérer ses terres et qu'il sera de retour avec les autorités. Puis Claude s'en alla sans rien ajouter, sous le regard pesant des paysannes. Bientôt, c'est toute la colline qui nous observait. On sentait que notre venue ne laissait personne indifférent. Le soir même, dans l'intimité de leur maison, les femmes en parleraient à leurs hommes. Les hommes en parleraient plus tard entre eux au cabaret du village. Et la venue de Claude et du Métis ne finirait pas d'alimenter les conversations, d'entretenir toutes sortes de spéculations et de fantasmes, de remuer les fantômes du passé, de faire renaître des peurs enfouies, de ranimer des haines tenaces et des envies de vengeance. Jusqu'à ce que l'on remonte sur la moto et que l'on disparaisse de la colline, on sentit sur nos épaules le poids de ces centaines de regards effarés. On entendait bourdonner à nos oreilles l'affolement de toute une communauté. N'ayant toujours pas de nouvelles de Claude, j'ai pris le bus pour Quibouillé. Il était peut-être chez Alfred. Le car m'a déposé dans le centre et j'ai continué à pied en passant devant l'église Saint-Jean, posée au sommet de son promontoire et d'un paysage d'une beauté à couper le souffle. J'ai longé la route qui descendait vers les rivages luxuriants. L'eau du lac, en cette fin de journée, était d'un bleu profond aux reflets argentés. Le vent du large ridait sa surface et soufflait agréablement dans mes cheveux. J'ai quitté le goudron pour m'engager sur un petit chemin de sable blanc constellé de cristaux de mica qui menait au bout de la presqu'île, plantée d'arbres fruitiers, de palmiers, de ficus et de vieux grévillères. Le soleil était rasant et entre les branches, ses rayons striaient la route de faisceaux de lumière dans lesquels s'agitaient des nuées de minuscules moucherons inoffensifs. Dans l'eau, des enfants chahutés et un troupeau de vaches nageaient entre deux îlots. Seules leurs grandes cornes émergeaient du lac. Un groupe d'ibis passait en escadrille, formant un triangle haut dans le ciel. Le chemin a enfin débouché sur le chalet en bois blanc, planté au bord du lac. Les portes-fenêtres étaient grandes ouvertes, les rideaux ondoyaient dans la brise, une musique s'échappait du ventre de la maison. L'intérieur avait été complètement restauré. De grandes bibliothèques couvraient les trois murs du séjour, remplies de la collection qui se trouvait autrefois au palais. Tous ces livres, tous ces disques que j'avais connus en pile poussiéreuse étaient organisés et rangés. J'ai appelé Alfred, frappé aux portes des chambres, mais il n'y avait personne. J'étais ému de me retrouver seul ici, des années après ce week-end intense, à écrire avec Stella, Claude et Sartre. J'y pensais en allant m'asseoir sur la terrasse, face au lac. La musique emplissait le ciel. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une chanson d'amour ou d'une prière swahili. Les voix de Makeba et Belafonte se mêlaient gracieusement. Malaika flottait dans l'air, léger et fragile, en chantant jusqu'à ma plus profonde mélancolie.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Na mini nifanyeje, kijana mwenzio. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika.
2020. À l'autre bout de la ville, l'hôpital psychiatrique de Ndera est une longue bâtisse peinte en rose, entourée d'un parc tiré au cordeau. À l'entrée, une stèle rend hommage aux 21 000 victimes massacrées là durant le génocide. Le 16 avril 1994, les patients et de nombreuses personnes ayant trouvé refuge dans le bâtiment ont été abandonnés par les soldats belges. Je me souviens des images à la télé, de ces milliers de personnes levant les bras en l'air, implorant l'aide du contingent belge, qui finit par évacuer uniquement les Occidentaux et leurs animaux de compagnie, alors que l'hôpital était cerné par les tueurs. Aujourd'hui, Ndera est encore le plus grand centre psychiatrique du pays. Stella y est internée depuis 3 jours. À l'accueil, on m'indique sa chambre, mais elle est vide. Une infirmière me conseille d'aller voir du côté du réfectoire. Au loin, j'entends une clameur. J'avance dans les longs couloirs et le son est de plus en plus fort. Dans la salle carrelée de blanc et encore décorée par des guirlandes de Noël, 2 infirmières sont debout derrière une table de mixage, face à une trentaine de patients en tenue de sport, sandales aux pieds, qui dansent sur du trip-hop, les yeux fermés et les bras levés au ciel, comme lors d'une messe païenne. Je finis par apercevoir Stella, vautrée sur une chaise en plastique dans un coin de la salle, les épaules basses, les bras ballants entre ses jambes. Un oisillon abandonné dans un jogging trop grand pour elle. Lorsque je pose une main sur son épaule, elle lève les yeux et m'adresse un sourire fatigué. On s'éloigne de la musique, sa batterie effrénée, ses cordes symphoniques, pour trouver un peu de sérénité dans les jardins, sur un banc, à l'ombre d'un terminalia mentali. Devant nous, des femmes étendent de grands draps blancs sur une corde à linge. Le soleil découpe leur silhouette à contre-jour derrière le tissu. Il ne fallait pas t'inquiéter, Milan. D'après le médecin, mon état est stabilisé. Faut dire qu'on me shoot au neuroleptique. J'ai réussi à dormir quelques heures cette nuit malgré le boucan dans la chambre voisine. Tu manges ? Pas trop. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir. C'est gentil, mais ma mère est passée hier avec des fruits et des gâteaux que je n'ai même pas touchés. Tu devrais voir comme elle se contient. Elle hésite entre l'empathie et le reproche. Mais au fond, je la connais. Elle est déçue. Je vois bien qu'elle me trouve faible ou enfant gâté. Certainement un peu des deux. Tant pis. Cette fois, je n'y peux rien. Je n'ai plus la force de jouer ma partition. Tu sais, le rôle de la petite fille modèle que je lui sers depuis toujours. J'ai 21 ans et je suis déjà si fatigué. J'ai l'impression d'avoir un corps sans cœur et une âme sans esprit. Elle se met à pleurer et moi je l'entoure de mes bras, en silence. Ils ont coupé l'arbre, ces assassins. Le CEPI m'avait prévenu et j'étais passé le matin pour constater les dégâts. La parcelle était défigurée. À la place de l'arbre, il y avait dorénavant un grand trou de lumière crue exposant le jardin à la morsure du soleil carnassier. Fini l'ombre protectrice et la fraîcheur. Le lieu était méconnaissable. Il avait comme disparu. Le temps a fait son effet. Dans le cabaret au sol en terre battue, il fait si sombre que nos yeux mettent un instant à s'accoutumer à l'obscurité. On s'assoit sur un petit banc face à deux types qui consomment silencieusement leur bière de banane. Claude les salue poliment et on commande deux Fanta. On ne trinque à rien en particulier, le liquide sucré et pétillant glisse rapidement dans nos gosiers asséchés. Ces types que je viens de saluer, ce sont aussi d'anciens tueurs. Ils faisaient partie du groupe qui a massacré à l'école. Voilà pourquoi je ne peux pas habiter ici. Vivre directement à leur contact, c'est impossible. Mais maintenant, j'arrive à les croiser sans avoir envie de les flinguer. On rit bruyamment et les deux hommes nous lancent des regards amusés. On avale quelques gorgées en silence. Les deux hommes à côté bavardent sans faire attention à nous. Que peuvent-ils bien se dire en voyant Claude, assis à boire ou occupé à reconstruire la maison de sa famille avec leurs propres enfants? Se disent-ils que leur projet d'extermination totale a échoué? Que cette haine qu'ils ont déployée avec tant de sadisme et d'ardeur n'a servi à rien? Claude paraît lire dans mes pensées. Tu sais ce que je leur reproche le plus à tous ces gens? C'est d'avoir créé, et pour longtemps encore, une société de défiance. Stella. Stella me regarde de ses grands yeux verts, les mêmes qui me fixaient 21 ans plus tôt, quand elle n'était qu'une nouveau-née s'ouvrant à la vie, sur cette même terrasse, entourée de ma mère et de Rosalie, à l'ombre de l'imposant jacaranda aux fleurs bleu lavande, qui s'élevait alors de toute sa majesté vers un ciel infini, témoin silencieux des vicissitudes du siècle dernier. À cet instant précis, je prends conscience de ce que Stella a perdu pour toujours. Elle qui, pendant 21 ans, a vécu sous la voûte tutélaire de cet arbre monument, qui n'a pas passé un jour de son existence sans lever ses yeux émerveillés vers la cime vertigineuse du flamboyant et sans que ses pensées ne se perdent dans le foisonnement de vie qu'abritait son abondant feuillage. Insectes, lézards, rapaces, passereaux multicolores et ses couples de touracos de Lady Ross à la crête rouge et au bec jaune, merveilleux amoureux qui lui offraient le doux spectacle de leur patifolage. Stella a grandi auprès de son arbre mystique, son ami et confident, une présence rassurante dans une époque tourmentée, une balise fixe dans les remous du temps qui passe. Elle a pris la mesure de sa perte. Elle en connaît la valeur.
Yokai, yokai,
écoute en lingala. Alors on va chanter ensemble. Balance. Merci de nous avoir écoutés. À vous. Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapée transforme le globe en un village. Effraction, l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Milla en Coupe du Monde, et le monde danse le Makossa. La guerre du Golfe de Mr. Bush, avant Fiston, il y avait papa. Et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papayes. Nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves. Souvent très loin de mon quotidien, je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours de tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté, j'ai éteint ma télé. À vous.
Yokae, yoka, yokae, oh, yokae, yoka, yokae.
Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise, à se demander c'est quoi à la télé, c'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert. L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Le battement du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rime.
Yokae, yoka, yokae, oh.
J'ai perdu mon jardin d'Éden où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes, vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un trois pièces, un immeuble surchauffé. Et je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place. Et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause. Le temps d'une pub Coca-Cola, inséré entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a grandi en continu, comme un flot d'informations, et je me suis perdu dans ma rue, sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées. Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gave d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule, et nos vies s'écoulent, coulent pendant que le monde s'écroule.
Yokae, yoka, yoka, oh, yoka, 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 oh.
Encore une fois, vos cordes vocales sont magnifiques.
Yoka,
yoka,
yoka.
Vous seulement.
Yokae, yoka, yokae.
Merci.
Merci à la librairie de Jessica. Merci à madame. Merci beaucoup, merci au Samuel Canalisier.
merci également à la merveilleuse éditrice, Madame Catherine Lavecoq. Merci à vous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à venir si on passe dans le coin. On passera dans le coin, obligé.
Je disais tout à l'heure, si j'habitais pas au Rwanda, j'habiterais dans la Drôme.
Restez debout, on va terminer avec cette énergie-là. On va chalouper ensemble. N'hésitez pas à. N'hésitez pas à utiliser vos très belles cordes vocales.
Viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en Fravioso, des bégonias sur le balcon. Un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Oh, chalouper, chalouper. Oh, chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécone, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Oh,
chalouper, chalouper.
Merci beaucoup. Merci à tous.